France Musique. Musicopolis. Strozzi, 1659, Venise. On ne sait pas énormément de choses sur Barbara Strozzi, même si les musicologues ont fait pas mal de découvertes sur sa biographie depuis une vingtaine d'années. C'est seulement récemment, par exemple, qu'on a eu connaissance de la date de sa mort, en 1677, à l'âge de 58 ans. Mais on a moins de certitudes sur ses origines et même sur son nom. Sa mère est nommée Isabelle Griega sur son acte de baptême, alors que son père est incerto, incertain, autrement dit inconnu. Giulio Strozzi, son père adoptif dans son premier testament, la nomme Barbara Valle lorsqu'elle a 9 ans. Mais dès décembre 1637, ses 18 ans, on sait par une dédicace qu'elle est déjà la molto illustre et la très illustre signora Barbara Strozzi. On peut imaginer que la petite Barbara a reçu une éducation très raffinée. Giulio Strozzi, son père, père adoptif et peut-être biologique, est l'un des hommes de lettres les plus en vue de Venise et il appartient à une académie, les Incogniti, qui réunit à peu près tous les intellectuels de la ville. Barbara les connaît et elle fréquente aussi des musiciens, puisque son père travaille avec eux. Et puis, dans son enfance, comme elle le dit dans la préface de l'une de ses œuvres, elle a eu pour professeur Francesco Cavalli, chanteur, organiste et compositeur. Lorsque son père fonde l'Académie des Unisoni, c'est elle qui reçoit et qui dispense les sujets des débats. Elle chante également, entourée de musiciens dont on dit qu'ils ont les plus belles voix du siècle. Comme tout groupe d'un peu d'influence, l'Académie des Unisoni, fondée par Giulio Strozzi, est la cible de commentaires. Quelques écrits satiriques paraissent dans le but de ridiculiser les réunions et même mettent en doute la vertu de Barbara. On peut lire par exemple après une description de la jeune fille distribuant des fleurs aux académiciens « C'est une belle chose que de distribuer les fleurs lorsqu'on a déjà accordé les fruits. » Ailleurs, à propos de sa chasteté, il est écrit qu'il est très différent de se prétendre chaste et de l'être vraiment. Et l'auteur, anonyme bien sûr, poursuit « je la considère comme extrêmement chaste, puisqu'avec son éducation libérale, elle pourrait passer son temps avec quelque amant, alors qu'elle concentre toutes ses affections sur un castrat. Si la vertu de Barbara Strozzi est attaquée, en fait, il y a quelques raisons. Et d'abord, c'est que la pratique de la musique n'est pas considérée comme très convenable pour une jeune fille de bonne famille. Par exemple, le poète Pietro Bembo écrit à sa fille, qui veut apprendre un instrument, que l'art des sons convient sans doute à celle qui est vaine et légère, mais qu'en tant que jeune fille chaste et pudique, elle devrait se contenter de l'exercice des lettres et de la couture. D'autre part, la musique est très souvent associée à une certaine licence de mœurs. Le raccourci est vite fait. Une musicienne qui reçoit chez elle des intellectuels ne peut être qu'une courtisane. D'ailleurs, les courtisanes de cette époque sont souvent réputées pour leurs talents musicaux. Une chanteuse comme Anna Maria Sardelli a été célèbre autant pour ses exploits amoureux que pour ses réussites musicales. En l'absence de documents qui affirment soit que Barbara Strozzi n'était pas une courtisane, soit qu'elle en était une, sa première biographe, Hélène Rosand, souligne que les textes que Barbara met en musique tournent toujours autour de l'amour, que la nature même de sa musique est très sensuelle, et qu'après tout, elle a pu être une courtisane aussi talentueuse dans l'art de l'amour que dans celui de la musique. Pendant que les membres de l'Académie des Unisoni se retrouvent chez Giulio Strozzi, beaucoup d'autres maisons accueillent aussi des réunions musicales à Venise. Et on peut entendre des petits concerts chez les uns et les autres. Parfois des concerts de plus vastes proportions, parfois même des opéras. Mais tout cela sont réservés aux personnes de haut rang et les classes moins aisées ne peuvent pas en profiter. Du moins jusqu'en 1637, où a lieu à Venise un événement extraordinaire, l'ouverture du premier opéra public avec entrée payante. Premier opéra de la ville et premier du monde. Il est vrai que le genre de l'opéra n'est pas très vieux, il a été inventé au tout début du siècle, et le premier chef-d'œuvre dans le genre, l'Orfeo de Monteverdi, a été représenté à Mantoue en 1607. Dans son livre sur la Venise de Vivaldi, Patrick Barbier écrit ceci. Seule une ville tournée vers le commerce et les affaires depuis tant de siècles, mais aussi une ville qui, à travers ses fêtes et son carnaval, ne cessait de brasser les classes sociales, a pu ainsi transformer l'art lyrique, élitiste par excellence, en un art commercial et populaire. Tout ce qui ressemblera à cela par la suite, à Naples ou ailleurs en Europe, sera imité de Venise. Fin de citation. Ce sont les membres de l'une des grandes familles nobles de Venise, les Tronnes, qui vont se lancer les premiers dans l'aventure. Il y a déjà plusieurs théâtres dans la ville, bien sûr, mais rien qui concerne la musique. Et justement, il lui faut un lieu particulier, puisque l'opéra est une sorte d'art total qui réunit la musique, le théâtre, la danse. Son langage est en train de s'inventer pour séduire son public. La famille Tron, des nobles vénitiens, était propriétaire du théâtre San Cassiano, un théâtre en bois spécialisé dans la comédie. Mais le théâtre a brûlé et les Tron décident d'en construire un nouveau en pierre. La salle est vaste, avec 5 rangs de 31 loges chacun. Pendant le carnaval qui suit l'achèvement du San Cassiano, une troupe de passage propose de représenter un opéra, l'Andromeda, musique de Francesco Manelli, et d'ouvrir à un public payant. Le succès est tel que les propriétaires décident de consacrer leur salle à ce nouveau genre. Le grand développement de l'opéra commence là. Bientôt, les musiciens vénitiens vont s'y mettre activement, en particulier Francesco Cavalli, le professeur de Barbara Strozzi. Francesco Cavalli, ténor à la cathédrale San Marco, dont Monteverdi est le maître de chapelle, compositeur déjà de quelques airs et de pièces de musique religieuse, se tourne vers l'opéra en 1639, l'année où il remporte également le concours pour devenir second organiste de la cathédrale. Il y a quelques années, il a épousé une riche veuve, et c'est ce qui lui permet de se lancer vraiment dans l'aventure de l'opéra, puisqu'en effet, il est à la fois directeur de troupe, compositeur et investisseur. Il va composer 12 opéras pour le San Cassiano et encore 20 autres pour d'autres théâtres de Venise ou Naples, Milan, Florence et même Paris. Je vous renvoie à la série de Musicopolis sur ce compositeur pour le détail. Il est très probable que Cavalli a collaboré avec Monteverdi pour les 2 opéras que le maître a écrits et fait représenter à Venise. Le retour d'Ulysse dans sa patrie, juste 2 ans après l'ouverture du San Cassiano, et le couronnement de Poppée, 4 ans plus tard.
Sei più cuore, se si, se si, se si.
Lorsqu'il compose le couronnement de Poppée en 1643, Monteverdi a 76 ans. Il est prêtre depuis une dizaine d'années et il continue à publier de la musique profane à côté d'œuvres religieuses. Ça n'est pas un problème à Venise qu'un prêtre se mêle de profane ou d'opéra, et on pouvait même voir des prêtres sur la scène dans des opéras. Le secrétaire de l'ambassade de France, Limogeon de Saint-Didier, écrit à ce propos « Je dois dire aussi que les prêtres ne font point de scrupules de paraître sur le théâtre et d'y faire toutes sortes de personnages, puisque cela se pratique à Rome. Au contraire, la qualité de bons acteurs leur donne celle de vertueux. Un jour, un des spectateurs, reconnaissant un prêtre sous l'habit d'une vieille, criait tout haut « Ecco Prepiero, che fa la vecchia !» Voilà le père Pierre qui joue la vieille. Cependant, poursuit notre narrateur, toutes choses se passent à l'opéra avec beaucoup plus de bienséance qu'à la comédie, parce qu'on aime naturellement la musique et qu'il y va plus d'honnêtes gens. Aussi paye-t-on 4 livres à la porte et 2 livres au parterre pour la chaise, sans compter le livret de l'opéra et le petit pain de bougie que tous les spectateurs achètent. Car sans cela, ceux même du pays auraient de la peine à comprendre quelque chose à l'histoire et à la suite de la pièce. Ceux qui composent la musique de l'opéra, nous dit notre secrétaire d'ambassade, s'attachent à faire finir les scènes des principaux acteurs par des airs qui charment et qui enlèvent, afin d'attirer les applaudissements de tout le théâtre. Cela réussit si bien, selon leur intention, qu'on n'entend que des « Benissimo » de 1000 voix à la fois.
Se rinascessi un dì, vorrei nascer matrona e morir serva. Chi lascia le grandezze piangendo a morte va, ma chi servando sta con più felice, felice sorte. Come fin degli stenti, ama la morte.
L'air d'Arnalta dans le couronnement de Poppée de Monteverdi, Bernarda Fink en Arnalta avec The English Baroque Soloist, dirigé par John Elliott Gardiner. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Pierre Mine pour le mixage, Françoise Monteil, Aurélie Moreau, Philippe Demenoux pour le site et la préparation, et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.